Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour la présentation du numéro 52 de la revue Les Moments littéraires. À mes côtés, Anne Coudreuse, Fabienne Jacob, Hervé Ferrage. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la revue, je vais vous la présenter très, très brièvement. Les Moments littéraires ont été créés il y a maintenant 26 ans. C'est une revue semestrielle qui s'intéresse à l'écrit intime, c'est-à-dire la littérature du jeu, ou le récit de soi. Et donc, on publie des journaux intimes, de la correspondance, des récits autobiographiques, de l'autofiction, des carnets de voyage, des carnets d'écrivains, d'auteurs connus, voire très connus, comme Simone de Beauvoir, Serge Dubrovski, Jean Giono, toujours des inédits d'ailleurs, ou des auteurs moins connus, plus confidentiels, voire même totalement inconnus, qui n'ont jamais imaginé un seul instant que leurs journaux intimes seraient un jour publiés. Ce sont des textes que l'on retrouve, enfin que la famille retrouve lors des successions. Et si le texte me paraît intéressant d'un point de vue littéraire, je le publie très volontiers. La revue a connu trois grandes évolutions au cours des 26 années. Au tout début, c'était une revue qui proposer des textes sans rapport les uns avec les autres. On pouvait voir des extraits du journal de Michel Pollack ou de Louis Nucera ou des lettres extraites de la correspondance familiale de Jean Giono. Mais à partir du numéro 6, j'ai introduit des dossiers pour des auteurs pour lesquels l'écrit intime a une place importante dans leur œuvre. Donc là, ça va de Annie Ernaux à Marianne Lafont, de Dubrovski à Emmanuel Carrère, de Bergougnoux à Philippe Forest. Donc c'est un large panorama de l'écrit intime que je veux proposer. Là, nous avons un portrait de l'auteur par un ami ou un proche, un long entretien sur, en gros, la vie et l'œuvre de l'auteur, et un ou plusieurs textes inédits de l'auteur. La deuxième grande évolution, c'est l'introduction de la photographie dans la revue. Depuis 6 ans, je propose des portfolios d'une dizaine de photographies. Les photographies ne sont pas là pour illustrer les textes, encore moins pour montrer la bobine des auteurs, mais pour montrer l'apport de la photographie dans le récit de soi. Donc, le portfolio est composé d'une dizaine d'autoportraits. Ce fut le cas, par exemple, avec le portfolio d'Elina Broterus ou celui de Florence Chevalier. Ou alors, ce sont des portraits d'un même modèle pris par un ou plusieurs photographes sur une longue période. Et là, ce fut le cas des portfolios de Jean Rau, d'Olivier Roller ou d'Eve Morcrette. Et puis, dernière évolution, très récente, 2020, c'est l'apparition des numéros géographiques, où là, j'essaye de faire un panorama des écrivains diaristes francophones de même pays. J'invite entre 15 et 20 auteurs à nous proposer des extraits de leur journal intime. Il y a eu un numéro sur la Suisse, un sur la Belgique, un autre sur le Luxembourg, et le dernier était sur le Liban. Et enfin, mais ça c'est un peu marginal par rapport à la revue, il y a des hors-séries qui sont réalisées de temps en temps. Il y en a eu 4. Et le dernier étant le 4e opus du journal intime de Jocelyne François. Donc voilà brièvement l'évolution de la revue. Donc on est là pour le numéro 52. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le numéro 52 Le dossier du numéro 52 est consacré à Anne Coudreuse, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Donc, on va trouver deux portraits d'Anne Coudreuse, l'un réalisé par Fabienne Jacob et l'autre par Annie Ernaux. Ensuite, il y a le long entretien avec Anne Coudreuse, puis un extrait du journal intime. Le portfolio du 52 est consacré à une photographe japonaise, Kimiko Yoshida, qui a une approche assez particulière de l'autoportrait et il y a un texte qui présente son travail, texte écrit par elle-même. Ensuite, il y a des textes qu'on proposait. Il y a trois textes. Le premier texte, c'est des haïkus de Diane de Margerie. Diane de Margerie nous a quittés il y a un an maintenant, et elle avait une passion pour l'art et la littérature japonaise, et elle, pour ce qui fut sa dernière œuvre, elle s'est inspirée des haïkus japonais pour écrire, durant le confinement, le texte que je vous propose, et qui nous dit, à travers ses petits poèmes, la beauté du partage et surtout l'importance de l'amour de l'autre pour aider à vivre. Ensuite, il y a des extraits du carnet grec d'Hervé Ferrache, qui est à mes côtés, et enfin, un texte de Jacqueline Fischer sur des fragments de son enfance. Et comme tout numéro de la revue depuis maintenant une quinzaine d'années, ça se termine par la chronique littéraire d'Anne Coudreuse. Je lui ai donné une carte blanche il y a 15 ans pour qu'elle nous propose chaque semestre ses coups de cœur en matière d'écrit intime. Alors, pour commencer à mieux faire connaissance avec Anne Coudreuse, je vous propose d'écouter Anne Coudreuse et Fabienne Jacob qui vont nous dire le portrait que Fabienne Jacob a réalisé d'Anne Coudreuse.
Alors, pour mes amis qui sont présents, ils vont être un peu surpris parce que je ne suis pas je. Je suis Anne Coudreuse dans ce texte en lisant et Anne Coudreuse et Fabienne Jacob. Normalement, on avait invité la canne aussi, mais on n'arrive pas à prendre la canne et nos feuilles. Donc,
sans embarbre,
sur le pont vide.
Elle porte un beau nom.
L'un des plus beaux qu'il m'ait été donné d'entendre.
Un nom comme une pluie douce qui bat contre le carreau d'avril, couseuse. Jour de patience et d'aiguille sous le grand lampadaire du salon.
Coudrier, l'autre nom du noisetier. Je ne suis pas sûre, je vérifierai. J'ai vérifié, c'est bien ça. L'enfance qui a toujours raison. Souvenir lointain et précis des leçons de choses à l'école. Nous, lâchés dans le grand pré, bondissant vers l'alouette et la fougère. Du coudrier, je revois la tige souple et au bout la feuille ronde et dentelée, généreuse et brillante.
Ça lui va bien, Coudreuse. Généreuse et brillante, de la couturière en elle et aussi de la noisette. Précision, acuité, gourmandise, réparation, enfance.
Quand je pense que cette femme a sauté d'un pont, j'arrête le char de l'onomastique. Mon cerveau soudain brouillé par les fils qu'il a fallu pour recoudre Coudreuse et par la tige métallique qu'elle a peut-être dans sa jambe. Si je lui demandais, elle me le dirait aussitôt.
Car elle dit facilement la vérité, Anne Coudreuse. Il suffit de la lui demander.
Ce n'est pas comme moi. S'il m'arrive de remonter des choses des tréfonds, je ne partage pas, je garde pour moi.
Non seulement Anne Coudreuse dit sans détour qu'elle a sauté d'un pont, mais elle l'écrit aussi.
Quand je la vois, je pense toujours au pont. Et quand je la lis, je reviens sans cesse au passage où elle en parle. Je me demande...
Quel auteur avait le pont ? S'il y avait des arbres autour, s'il y avait beaucoup de circulation sur l'autoroute en contrebas, quel temps il faisait ce soir du 12 août 1990, ce qu'elle a vu la portion de seconde après qu'elle a sauté et avant qu'elle atterrisse plus bas, ce qu'elle a vu et surtout ce qu'elle a pensé. Les phares de la voiture du père la poursuivaient, alors, pour échapper, elle a sauté.
Je ne peux pas être en face d'elle sans penser au pont. J'y pense quand je vais au rendez-vous qu'elle me fixe dans les cafés ou à la fac. J'y pense encore dans le bus ou le RER quand je quitte le café ou la fac.
La plupart du temps, c'est elle qui m'attend. Elle vient toujours en taxi. Elle ne peut prendre un RER ou un métro, rapport au pont. Elle vient avec une canne. En même temps que je vois sa canne, je vois son sourire. Le sourire éclipse toujours la canne. Des deux, c'est toujours lui qui gagne. Anne Coudreuse a la bonté qui lui coule dans les yeux, généreuse et brillante.
Je préférerais que ce soit les salauds qui se jettent des ponts.
Mais c'est elle.
Si elle n'avait pas sa bonté et son sourire, je n'irais peut-être pas au rendez-vous, car Anne Coudreuse m'impressionne.
Cette femme est capable de lire quantité de livres, d'en recracher dans l'heure une analyse, un angle, un plan qui se tient, une problématique qui dépote, elle est en quelque sorte...
Non pas mon double, mais mon contraire. Moi qui me cache derrière mes livres, qui ai préféré courir les garçons...
Que passer une thèse.
Qui dans ma jeunesse oisive lisait seulement pour le plaisir. Moi qui aime les hommes, en particulier ceux qui sont ascendant taureau.
Elle, mon envers... Major de Normale Sup, universitaire spécialiste du XVIIIe siècle, homosexuel, dévissant dans les grandes largeurs à la suite d'une rupture amoureuse. Chez elle, chaque conflit est suivi d'un effondrement psychique violent.
Moi, j'étais dit pour quand la mer monte.
Elle, non. La marée passe à travers, ça rentre, ça pénètre, et ça fracasse tout à l'intérieur. Et elle le dit et elle l'écrit.
Et moi, je lis tout, avidement, goulûment. Je veux comprendre l'autre, le grand A et le petit A. Je mate. Tout lecteur est un voyeur. La première fois que je suis allée à sa rencontre dans les couloirs de l'Université Paris 13, à Villetaneuse, un jour d'automne, j'avais en tête son CV, ses médailles, son poste. Je me suis demandé...
Ce qu'elle me voulait, ce qu'elle me trouvait.
Et je l'ai trouvée.
Elle, avec sa cafetière et son sourire, au fond d'un dédale de bureaux gris, bâtiment D, salle 125... Traverser le campus, puis à gauche, et après le deuxième bureau, encore à droite. Elle était là, assise sous une affiche d'Annie Ernaux qu'elle avait fait venir auprès de ses étudiants.
Et j'ai compris ce qu'elle me trouvait. Peut-être ça qui m'impressionne le plus, finalement.
Pas son curriculum, ni même son sceau, mais ce qu'elle déniche tout au fond des gens. Peut-être le goût des larmes. Comme Coudreuse est un beau nom, le goût des larmes aussi est un beau titre qu'elle a choisi pour l'une de ses études. Dans son récit, Le nom des fous, chaque page donne à chialer. La lumière au fond des couloirs blafards, malgré les peintures pastels choisies pour ripolliner l'hôpital psychiatrique, le centre hospitalier spécialisé, les médecins rayés définitivement de l'ordre des médecins, d'autres des sauveurs, des héros d'humanité et d'empathie. Les chansons qu'Anne mettait sur son radiocassette et qu'elle chantait à tue-tête. Sa mère qui allait voir Barbara après le concert. Le premier ordinateur, le premier studio, la première déception, le premier chagrin. Chacun à sa façon, outil d'émancipation. Tous les prétextes sont bons pour fuir la Malienne. Ces bocages qui quadrillent le jour et ces pères qui poursuivent la nuit. Les cadeaux innombrables faits à la romancière Aline Moulin, à son mari et à son enfant, tout ça pour ça. Une explosion carabinée en plein vol d'amitié amoureuse. Et les lettres envoyées des centaines, des milliers. C'est pour cette expérience radicale qu'il faut lire Anne Coudreuse, de la littérature brute. Mais elle n'a pas que le goût des larmes, elle a aussi celui du rire, même du fou rire. Dans Le nom des fous, une de mes scènes préférées, et celle où elle couche finalement avec un autre pensionnaire de l'hôpital, tout simplement parce qu'il en avait envie. Et peu importe que la gentille infirmière surprenne les amants à leur quotidienne de la salutaire petite pilule bleue.
Au colloque sur Marie-Hélène Lafont, en octobre 2022 à Clermont-Ferrand, après son intervention, je l'ai vue rire, mais alors ce qui s'appelle rire.
Ce soir-là, elle était libre et heureuse, tout son corps le disait. La canne impassible près de la chaise attendait tranquillement que ça passe. On aurait dit qu'elle avait l'habitude. La joie venait toujours après la peine.
Un jour, je lui ai dit la vérité. Enfin, un petit bout. Dans mon entourage aussi, il y a un psychotique. Je sais, le mot ne veut rien dire. Il est une étiquette plus ou moins commode. Appelons-le comme on voudra. Quelqu'un, disons, qui a fait des séjours prolongés en hôpital psychiatrique. En centre hospitalier spécialisé.
Elle m'a écoutée et à la fin cette phrase. Un jour, on en sort.
Au fait, j'ai cherché, j'ai fouillé et j'ai trouvé. Les druides se servaient des baguettes de coudrier pour pratiquer leurs incantations. Les chercheurs d'or et les sorciers aussi les utilisaient. Pour rien au monde, je ne louperais un rendez-vous avec une sorcière. Fabienne Jacob.
Anne Coudreuse, les lecteurs de la revue vous connaissent déjà par vos chroniques, qu'ils apprécient, mais aussi par quelques-unes de vos nouvelles que j'ai déjà publiées. Bon, cette fois-ci, c'est le dossier numéro 52 qui vous est consacré. Donc, vous êtes normalienne, agrégée de l'aide moderne, maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Vous avez publié de nombreuses nouvelles dans des revues et un roman qui s'appelle « Comme avec une femme ». Comme vous le révélez dans ce grand entretien que vous m'avez accordé pour la revue, vous publiez aussi sous pseudonyme, puisque vous avez écrit 4 livres sous le nom de Marion des Saules, dont le fameux « Le nom des fous » dont vous avez parlé tout à l'heure. Dans l'entretien que vous avez accordé à la revue, nous n'allons pas revenir sur l'entretien, bien entendu, mais vous dites incertainement « j'écris pour oublier ». À première vue, cela me paraît plutôt paradoxal, car l'écriture, surtout l'écriture intime, fait appel à nos souvenirs, qui sont parfois si profondément enfouis en nous qu'on les a totalement oubliés, et ils ressurgissent tout simplement parce qu'on se met à écrire. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette démarche d'écrire pour oublier ?
Alors justement, c'est effectivement tout à fait contre-intuitif. Je pourrais partir de trois auteurs. Éric Chevillard, qui dans un des tomes de l'auto-fictif, a cette pique contre la psychanalyse en disant « mais la belle affaire d'aller raconter des choses à un psychanalyste parce qu'elles sont traumatisantes pour être bien sûr de jamais les oublier ». Et puis, Céline, dans Londres, qui dit « Je lui expliquais mon enfance, ça l'agaçait qu'on aurait dit ma confidence. Tout s'oublie qu'il a fait, mon ami, tout s'oublie. Il suffit de n'en jamais parler. » Mais il faut quand même à Céline 500 pages de Voyage au bout de la nuit pour qu'on arrive à « et qu'on n'en parle plus ». Donc, je ne suis pas au bout de mes 500 pages non plus. Et puis, dernière référence et la plus chère à mon cœur, c'est Barbara, dans sa chanson « Mémoire, mémoire », qu'elle a chantée au Châtelet en 87. « Écrire mes mémoires avec de l'encre noire sur un papier lilas que je n'enverrai pas, parler des jours de gloire et des soirs de désespoir et boire ma vie jusqu'à l'oubli. » Ben, c'est bien sûr à Barbara que je pense quand je dis que j'écris pour oublier. C'est-à-dire que même si... même si ça paraît paradoxal, ça fonctionne comme ça, c'est par une sorte de saturation de l'écriture qui fait qu'on arrive à ne plus y penser ou que c'est rangé dans un casier et qu'on n'y revient pas forcément ou que c'est dans la forme qu'on veut que ça ait prise, parce que autrement c'est insupportable, le chaos, le magma. Et donc, l'écriture permet d'oublier parce que ça permet de classer. C'est penser classer, le fameux penser classé de Pérec. Et puis, écrire m'aide à oublier aussi pour des raisons tout à fait pragmatiques. Par exemple, si j'ai fait une nuit pleine de cauchemars, noter mon cauchemar au matin va me permettre de ne pas être hanté par lui toute la journée, de ne pas être poissé comme ça par les images, les fantômes de la nuit. Ou écrire mon agacement, mon chagrin quand je me suis sentie blessée par tel ou tel comportement, ça me permet de continuer aussi la relation avec quelqu'un sans lui en faire de reproches, comme si de rien n'était. Et j'aime bien aussi que ça facilite ma vie sociale ou que je garde le côté grincheux à l'intérieur, quoi, ou dans les textes et dans le carnet. Mais plus généralement, ce que je voulais dire quand j'ai dit que j'écrivais pour oublier, c'était surtout que je n'écris surtout pas pour me relire. Il y a des écrivains, c'est Gide qui disait « j'écris pour être relu » et lui, sans doute qu'il aimait particulièrement se relire déjà lui-même. Moi, je l'ai fait une seule fois dans ma vie. C'était à Marseille en septembre 98. Donc j'ai relu les quelques articles universitaires que j'avais publiés, très peu. Et j'ai relu les quelques nouvelles que j'avais écrites. Et ça a été une expérience désastreuse parce que c'était comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit ça. Je trouvais à la fois que c'était très beau et très triste et je ne comprenais pas que personne ne l'ait vu, que personne ne le voit. Et ce dédoublement, c'était vraiment une épreuve tellement terrible que j'ai cru que j'allais jamais pouvoir recoller les morceaux de cet autre qui avait écrit ça et que j'arrivais pas à reconnaître comme moi. Enfin, donc, je me suis dit ce jour-là, c'était comme un vertige vraiment, et je me suis dit plus jamais je ne relirai un texte, plus jamais, plus jamais. Et ce qui change peut-être, ce qui change tout, c'est la publication. Et là, je voudrais remercier à la fois vous, Gilbert, qui m'avez accueilli dans votre revue, et puis mon éditrice qui m'a fait le plaisir de venir ce soir et qui me publie tous mes textes depuis qu'elle me lit et qui m'a jamais refusé un texte, qui m'a jamais refusé un livre. La publication change tout parce que l'oubli devient possible si ce qu'on raconte devient la mémoire des autres, se transmet comme un souvenir pour les autres. Du coup, les mots échappent, les mots entrent dans une autre conscience, dans un autre chemin, et ça permet d'oublier, par exemple, que quelqu'un puisse, qu'il puisse y avoir des réactions de lecture, quoi, que quelqu'un puisse dire « je te crois, je vous crois », ça vient comme un cadeau, en fait. Et là, c'est le partage qui permet l'oubli, en fait, puisque les mots suivent leur chemin dans d'autres consciences, dans d'autres transmissions, et ça devient, ça s'épuise en moi, parce que ça passe à d'autres. Ça n'a rien à voir avec le succès ou avec la gloire littéraire ou je ne sais quoi, ça a à voir avec l'échange, avec une forme de transmission. Mais je me rends bien compte quand même que sur le plan pratique, écrire ne suffit pas à oublier et qu'il faut peut-être en passer par d'autres méthodes pour arriver à se libérer vraiment de certaines scènes, de certaines phrases, certains mots. Et arriver et revenir à l'écriture dans une forme d'apaisement quand même que je ne crois pas avoir encore trouvé. Donc peut-être j'ai trouvé des linéaments dans l'entretien, peut-être que poser les choses comme ça dans l'entretien avec vous, ça a permis un premier bilan un peu plus apaisé. Mais pour revenir à l'écriture, j'ai besoin de davantage d'apaisement, parce que c'est une pratique qui prend beaucoup d'énergie, quoi, pour arriver à... Et puis, peut-être, ce qui est important, c'est aussi que dans les réactions de lecture que j'ai grâce à la publication, que ce soit en revue ou en livre, c'est que j'ai des échos sur une forme de justesse et de vérité irréductible, que les gens me disent, c'est la dépression, bah oui, c'est exactement ça, ou... Le chagrin d'amour ou le sentiment d'abandon, ça me renvoie à tellement de choses que j'ai vécues moi-même, et ça sonne juste, quoi, que ça ne fait pas, ce n'est pas, ou peut-être le plus beau compliment qu'on ait pu me faire, c'est Anne Ernaux qui me l'a fait quand elle avait lu Requiem pour un palindrome dans Les Moments littéraires, et qu'elle m'avait écrit, pour moi c'est le plus beau texte du numéro parce que c'est un texte sans littérature. Dieu sait qu'on lui a reproché à elle d'écrire sans littérature. Mais quand elle dit ça à quelqu'un, on sait vraiment qu'elle adoube quelqu'un pratiquement, quoi. Donc, pour moi, c'est écrire pour oublier, c'est arriver à ce que Fabienne Jacob appelle la littérature brute, quoi. Voilà.
On peut se demander quand même si cette méthode marche bien. Puisque lorsqu'on lit vos différents livres, on retrouve souvent des mêmes épisodes de votre vie qui sont repris, retravaillés. Donc, est-ce que cette démarche est positive ?
En tout cas, à chaque fois, j'essaie de donner mon point de vue à l'époque, au moment où j'écris, quoi. Donc, de faire exister une forme qui enferme l'épisode douloureux, les phrases que j'aurais pas voulu entendre. Mais non, ce n'est pas efficace. Enfin, non, ce n'est
la littérature doit être efficace.
Mais ce n'est pas efficace. Non, enfin, je ne pratique pas ça comme une thérapie, vraiment. Et il y a des choses aussi que j'écris dans mes carnets. Par exemple, je les écris là d'une autre, de l'encre d'une autre couleur, ce sont des citations. Là, vraiment, j'ai envie de les retrouver vite, justement. Donc, c'est les autres que je ne veux pas oublier. Et d'ailleurs, quand j'ai recommencé à tenir un journal en 96, par là, c'est d'abord un carnet de citations. Il n'y a que des citations. La seule chose qui fait que ça ressemble encore à un journal, c'est qu'il y a des dates. Je date la lecture que j'ai faite de tel ou tel livre, de telle ou telle citation. Et ces citations, après, je les mets dans mes livres. Mais non, je ne crois pas que la littérature puisse avoir des vertus thérapeutiques quand on voit l'état dans lequel sont les écrivains.
Exactement.
Dans l'entretien que Pontalis m'avait accordé pour la revue, je lui demandais s'il n'avait pas l'impression de ressasser, car on trouvait parfois le même souvenir dans plusieurs de ses livres. Il n'était pas très, très content de ma question, il m'avait répondu « Un certain nombre de choses nous tiennent debout, font ce que nous sommes, et nous revenons sur elles un peu comme en analyse. C'est vrai que je reviens souvent, je veux bien admettre que je ressasse, mais si vous voulez être gentil, dites plutôt que je reprends. Et vous, Anne Coudreuse, vous ressassez ou vous reprenez ?»
Ah, moi, je vais utiliser la belle métaphore de Marie-Hélène Lafaux. Je n'hésite pas. Pourtant, c'est un mot qui m'a blessée et tellement blessée. Mais de le relire sous sa plume de façon assumée, provocatrice et libre, elle dit « Je suis comme les vaches, je rumine. » Eh bien, moi, j'ai ce côté en commun avec Marie-Hélène Lafont, je rumine. Ça permet de reprendre quand même. Je crois que ça permet de reprendre tant que de ressasser. Ça permet d'avancer dans la vision qu'on a des choses, dans l'angle. Je change d'angle quand même. Et j'essaie de retrouver ce qui peut me construire au-delà de ce qui m'a détruite, ou en traversant, c'est comme une épreuve du feu, quoi, en traversant ce qui m'a détruite, de réussir à trouver ce que d'avoir survécu à tout ça me permet de... Ah voilà, Marie-Hélène, je viens de te citer. Marie-Hélène, nous ruminons de concert. Voilà. Donc, bon.
Vous allez nous lire un extrait de votre journal intime. Quelques mots sur votre activité de diariste. Depuis quand tenez-vous un journal intime ?
Alors, je tiens un journal intime depuis que j'ai une douzaine d'années. J'ai commencé à le tenir dans la bibliothèque municipale de Laval, où j'allais à la bibliothèque. Mon frère disait « je vais à la bibliothèque », mais il n'allait pas à la bibliothèque. Moi, je disais « je vais à la bibliothèque » et j'y allais vraiment tenir mon journal. Donc. Et j'ai jeté tous mes cahiers de jeunesse quand j'avais 21 ans, pas longtemps avant de sauter du pont. C'était une première façon de sauter du pont. Je les ai jetés dans une poubelle de l'ENS à Fontenay-aux-Roses. C'est un sac plastique, hein, voilà. Tous mes cahiers, je les ai jetés en même temps que mon diplôme de bac. Donc je suis sans doute une des seules universitaires françaises qui n'a pas son bac. Et voilà, j'étais en révolte contre tout ça. Et après... Après, je me suis interrompue, et puis j'ai tenu à nouveau un journal à partir des années... parce que bon, j'ai fait ma thèse, j'ai quand même beaucoup, beaucoup lu et travaillé, donc c'était plutôt des cahiers de travail que j'avais. Et après, j'ai recommencé à tenir un journal vers 1996, dans lequel... c'était une sorte de fourre-tout. Il y avait des lettres que j'envoyais pas, il y avait des citations, il y avait beaucoup de traces de cauchemars. C'était vraiment... Et puis, mais je reprends mon journal chaque fois que j'ai besoin de faire le point, de mettre en forme, de penser, classer les choses, oui.
Vous allez donc nous lire un extrait du texte qu'on publie. L'extrait s'appelle « Souvenir de la maison du mort ».
Samedi 13 janvier 2024. En hiver, c'est peut-être encore plus pénible de venir dans cette maison, même si c'est en été que j'y ai vécu les moments les plus douloureux. Je superpose les pulls et les étoles pour lutter contre le froid. Je dois travailler, lire et écrire dans la bande-son des séries policières que ma mère regarde sur sa tablette. Je n'ose pas lui demander de mettre la télévision moins fort. J'espérais que ses prothèses auditives, qu'elle a enfin accepté de commander il y a quelques mois, l'inciteraient à baisser le son d'elle-même, mais j'avais tort. J'étais déjà là mi-novembre quand le camion d'Optical Center est venu pour les ultimes réglages. Le commercial l'a garé juste devant la porte de la maison, dont ma mère est sortie à l'aide de son déambulateur. Elle a eu du mal à se déplacer pour se positionner sur la plateforme, grâce à laquelle elle a été hissée jusqu'à l'entrée de la cabine, où elle a pu entrer pour faire les tests et les vérifications nécessaires. En d'autres temps, j'aurais peut-être trouvé une formule humoristique pour résumer la scène, du style « ta mère sur un monte-charge devant sa maison ». Mais tout ça me fait de moins en moins rire. Ou bien j'ai les lèvres gercées avec tout ce froid, cet hiver véritable, dont Patrick Modiano signale la disparition à Paris dans son dernier roman. Si mon sang ne se fiche pas encore dans mes veines, c'est mon encre qui est glacée et je manque de mots, d'élan, pour décrire les arbres dénudés, le ciel plombé, la vie au ralenti dans cette maison où je reviens pour elle et où je ne compte pas remettre un pied après elle. Tout geste la fait souffrir, malgré les patchs de morphine, et elle ne fait qu'à grand-peine les quelques pas nécessaires de son fauteuil aux toilettes ou jusqu'à son lit tard le soir. Comme elle est très lucide, elle se rend compte de son état dégradé et dégradant, de sa dépendance pour tout. Elle qui était si volontaire, qui défendait son autonomie et sa liberté, elle doit demander de l'aide pour tous les aspects de l'existence et même pour se laver et s'habiller. Ça me déprime moins que maintenant de l'avoir rempli. De l'avoir remplir ses grilles de mots croisés à longueur de journée. Je dissocie les images actuelles de celles plus anciennes où elle fait des mots croisés à mon chevet, sur la table roulante de la chambre d'HP où je suis enfermée et où elle a encore le droit de me rendre visite. J'écris ces phrases au présent parce que je n'ai jamais vraiment quitté cette chambre, parce que les temps se superposent. Sa copine Léone, qui a 5 ans de plus qu'elle et qui vit en EHPAD, si l'on peut encore parler de vie, lui téléphone plusieurs fois par jour pour lui demander la solution des mots croisés, lui dire ce qu'elle a mangé, lui parler de sa digestion, de ses enfants qui ne l'appellent pas et ne lui achètent pas des bonbons de la marque qu'elle préfère. Elle n'est douchée qu'une fois par semaine et a été giflée un jour parce qu'elle tentait de se lever. Elle dit souvent à ma mère « Reste chez toi, petite fille », comme s'il n'y avait pas d'âge pour être la cadette de quelqu'un. Votre mari a été assassiné. Ça doit être le début d'un nouvel épisode ou la fin, ça dépend de l'angle, de l'enquête. C'est déjà sur cette table que je faisais mes devoirs en fin de semaine, dans mon enfance, au milieu du bruit, des disputes, dans la meute de ma fratrie, mon frère et mes 2 sœurs. C'est une très grande table à laquelle peuvent tenir au moins 8 ou 10 personnes et que mes parents avaient acheté surtout pour les bancelles vendues avec. Ma mère ne s'y assied plus qu'à la fin de cette certaine semaine, quand ma sœur cadette lui rend visite en famille. Elle y reste alors pour la journée, passant du repas au jeu de tarot, ce qui la change des parties qu'elle fait sur sa tablette quand elle est seule et qu'elle trône dans son fauteuil à la cuisine comme la reine des abeilles autour de laquelle toute la ruche s'affaire pour lui complaire quand on lui rend visite. Je suis seule désormais à cette table où j'ai déjà passé tant d'heures dans mon enfance. Les sons qui arrivent de la cuisine ne dissipent pas les fantômes qui m'accompagnent quand j'écris. Dans un de mes premiers postes dans ma jeunesse, une collègue avait remarqué ma capacité à travailler et à me concentrer dans un bureau collectif où l'un passait un coup de fil et 2 autres discutaient. En fait, je voudrais hurler, demander le silence, qui peut parfois être une preuve irréfutable de respect. Mais je m'adapte, je m'écrase, je me méprise de supporter ça sans rien dire. Avant de mourir, réduit à l'ombre de lui-même par le cancer, mon père passait ses journées devant la télé. Il n'y avait aucun blanc, aucun espace dans lequel glisser une conversation, un échange, sans même parler d'une explication. Je crois que j'y avais renoncé depuis longtemps et pour moi c'est comme s'il était mort avant même de mourir. Je n'ai dit qu'une fois les détails très concrets qui me hantent et me souillent quand je pense à lui et dont je n'ai parlé à personne, ni dans ma famille ni avec mes amis. Je crois que j'ai été entendue quand j'ai fait l'effort de mettre des mots sur des images, mais ça ne sauve de rien. Et je ne suis pas sûre d'avoir été crue. Ou alors dans l'expression « manger toute crue », comme dans les contes avec des ogres et des princesses et des fées. Même celle que j'avais prise pour ma fée des lilas est devenue la fée Carabosse, et cette rencontre s'est changée en malédiction, en mauvais sort, que rien ne semblait pouvoir conjurer. J'ai rêvé que j'étais avec Agnès Varda, bien vivante, qui me faisait visiter sa dernière exposition à New York, loin en tout cas, dans une ville accessible seulement en avion. C'était plein de couleurs et de formes qui me plaisaient, sûrement des souvenirs de l'exposition de Niki de Saint-Phalle au Grand Palais en janvier 2015 et du Jardin des Tarots, deux endroits où j'ai été très heureuse, dans l'exacte coïncidence d'une vision et d'une sensation de bien-être, d'avoir trouvé ma place où je pourrais revenir mentalement. Puis je me retrouvais dans une sorte de sas, une zone de rétention pour l'immigrant, parce que je n'avais pas de passeport, ni aucun papier, ni mon téléphone. Tout cela parce que j'avais voulu changer de chaussette, ce qui m'avait fait oublier mon sac de voyage et le lieu où je l'avais oublié. Je passais un sale quart d'heure qui semblait ne jamais vouloir finir avec deux policières ou des employés de l'aéroport ou des douanes, m'expliquant que je ne pourrais jamais sortir de ce lieu, qu'aucun pays ne voulait de moi, qu'il n'y avait plus de lieu pour moi. Puis une porte s'ouvrait derrière moi, que rien ne matérialisait jusque-là dans le mur, et deux jeunes femmes, envoyées par le musée où avait lieu l'exposition, juste derrière la porte, m'exfiltraient, sans que je comprenne comment le rêve tirait sa matière et son apaisement du cauchemar auquel il mettait fin. Dimanche 14 janvier 2024. Le titre pourrait être aussi « Trois jours chez ma mère », mais il a déjà été pris par François Weyerkans, écrivain dont on parlait beaucoup à cette époque et qui semble aujourd'hui un peu oublié. J'avais aimé de lui la vie d'un bébé, lu vers 16 ans chez une cousine qui m'hébergeait quelques jours, rue Falguière, pour me permettre de me promener dans Paris et de visiter des musées. Je pense aussi au film d'Alain Cavalier, aux images du corps de sa mère, d'une impudeur qui me met mal à l'aise, mais qui est peut-être le prix à payer, le risque à prendre en tout cas pour parvenir à quelque chose qui s'approche de la vérité, d'une justesse qui, malgré son aspect déprimant ou dégradant, se retourne finalement en hommage, car ce sont les enfants qu'on abreuve de mensonges, comme de sirop bien sucré, pour leur faire avaler la pilule. La suite dans le numéro.
Je vais m'entretenir un peu avec vous, Fabienne Jacob. D'abord pour vous présenter brièvement. Donc vous avez grandi en Moselle jusqu'à vos 17 ans.
Moselle-Est.
Ah oui.
Après un an... La Moselle allemande et la Moselle française. C'est la Moselle allemande.
Après un an d'enseignement à Mayotte, vous entrez à Paris, vous exercez de nombreux métiers avant de vous consacrer totalement à la littérature. Vous êtes romancière. Vous êtes l'auteur d'une œuvre qui explore le corps, le désir, l'enfance. Parmi les livres, je voudrais citer Corps, publié en 2010, Mon âge en 2014, Les séances en 2016, et puis votre dernier livre, Ma meilleure amie, 2021. Je vous ai consacré un dossier, dans le numéro 41, avec un portrait de Claudine Zinger et deux textes introductifs, l'un de Julien Thève et l'autre de Marianne Lafont.
Tous les deux présents ici, les amis fidèles.
Anne Coudreuse nous expliquait qu'elle écrivait pour oublier. Et vous, pourquoi écrivez-vous ?
Sûrement pas pour oublier, sûrement pas. Au contraire, le contraire. On a des points communs avec Anne, mais pas celui-là. Pour oublier, non, pour me souvenir, ô combien, me ressouvenir, revivre... Non, d'abord, je ne sais pas pourquoi j'écris. Il faut dire la vérité, je ne sais pas. Le jour où je répondrai à cette question, je n'écrirai plus, parce que c'est très, très mystérieux. Pourquoi on écrit ? Je ne sais pas si tous les écrivains peuvent répondre à cette grande, grande question. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'écris pour me placer à un endroit de mon être, un endroit qui ne se laisse pas du tout facilement attraper. C'est comme une sorte de bête sauvage, alors on peut l'appeler, je sais pas, Heidegger l'appellerait la clairière de l'être, par exemple, Freud l'appellerait l'inconscient, parce que c'est peut-être l'inconscient aussi, moi je l'appelle le stock d'éternité, j'ai un stock d'éternité en moi, elle est retrouvée, quoi l'éternité, c'est vraiment ça, mais je ne sais pas où est ce stock, il est difficile à appréhender, il est difficile à trouver, il ne se laisse pas approcher, c'est une bête sauvage, c'est près de chez moi, près de mon petit village en Moselle-Est, il y a un étang que j'adore, qui est très beau, mais on n'y accède pas, il y a beaucoup d'orties, il y a des couleuvres, il y a parfois des sangliers, il y a des ronces, il y a des roseaux qui sont coupants, vraiment inhospitalier. Et seulement si on, on combat tout ça, ou coupe-coupe, on y arrive, on y arrive. Donc, vous voyez, ce sont des endroits. Là, je suis en face de ce petit carré de ciel. Maintenant, il est gris. Quand je suis arrivée, il était mauve et rose. Mais c'est peut-être ce petit carré de ciel que je veux atteindre en écrivant, mais c'est pas facile.
Alors vous écrivez sur l'enfance, sur le corps, le désir, sur l'intime, mais contrairement à Anne Coudreuse, c'est par la fiction et jamais directement par l'autobiographie que vous abordez et développez ces thèmes. Ne pas dire « je », est-ce une manière de libérer votre écriture ?
Oh, moi, je dis « je », hein. Je dis « je », mais c'est le jeu de l'autofiction. « Je », c'est pas moi. Comme la plupart du temps, je dis « je », à part dans l'averse.
Oui, mais c'est pas « je », vous.
C'est un homme. Mais, mais c'est quand même « je ». C'est « je ». Je prétends que c'est « je ». Je ne fais pas la différence. Anne Coudreuse relate, c'est vraiment la littérature, c'est ça que j'aime beaucoup dans les écrits d'Anne Coudreuse, c'est qu'on est vraiment... On est avec elle, on vit tout ce qu'elle vit, c'est la vérité, moi, qui me flanque par terre, la vérité, la justesse de toutes ces expériences, je les ai vécues, pourtant, elle c'est elle et moi c'est moi, je ne les ai pas vécues, mais en la lisant, je les vis, donc je ne fais pas la différence, je ne fais pas du tout la différence, je prétends que ma narratrice, c'est moi, on partage un certain nombre de choses, une vision du monde, des expériences sensitives, sensuelles, existentielles. Mais bien sûr, ce n'est pas moi. Je ne suis pas esthéticienne, par exemple, puisque c'est l'héroïne de corps, la narratrice de corps. Je ne suis pas documentariste. Mais je prétends que je le suis quand même. Je le suis. Je suis cette narratrice. Je l'assume. Je le suis. Je me planque un tout petit peu plus qu'Anne Coudreuse parce que j'ai peut-être pas son courage. J'ai peut-être pas sa radicalité. Mais parce que je pense qu'il faut une petite dose de courage. Annie Ernaux, là aussi, ce courage. Quand elle décrit sa mère, quand elle décrit certaines expériences sexuelles qui lui sont arrivées, ça relève, j'appelle ça du courage. Moi, je me planque un peu plus. Je n'ai pas ce courage. J'ai une forme de courage, mais il n'est pas aussi radical.
Est-ce que vous tenez un journal intime ?
Oui. J'en tiens un, mais il est parcellaire, lacunaire, et je le recommande à tout le monde parce qu'il est bien moins cher, bien moins onéreux qu'une cure analytique, et sans doute peut-être plus efficace. Quand j'écris dans mon journal intime, j'ai très nettement le sentiment de me délester de quelque chose. C'est maintenant à l'extérieur. Quand je souffre, ou quand je ballotte, ou quand je suis malmenée par le destin, par mon entourage, etc. Je flanque tout ça dans mon journal et c'est à l'extérieur. C'est très nettement à l'extérieur et moi, je suis un peu délestée.
Mais est-ce qu'un jour on aura le plaisir de lire ce journal ? Peut-être.
Si je suis morte. Ah. Si je suis morte, là, j'aurais le courage des morts. Hein. J'aurais plus besoin de courage. Non, peut-être pas, parce que j'implique mon entourage. Je tiens à quand même... J'ai autour de moi des gens qui me disent « Pas question d'être dans tes livres, pas question qu'on me reconnaisse, etc. » Et je comprends. Je les épargne.
Hervé Ferrage, à vous présenter n'est pas chose aisée. La notice qui vous présente en fin de ce numéro est très, très brève. Je la lis. Après des études de lettres et de longues années à l'étranger, il vit et travaille maintenant près de Paris et dans le sud-ouest de la France. Alors, cette brièveté n'est pas de mon fait. Vous avez proposé une autre notice et vous m'avez proposé celle-ci qui a étonné beaucoup de personnes. Alors, cette brièveté que vous avez choisie est-elle une marque de grande humilité, une manière de vous préserver? Ou considérez-vous qu'en fin de compte, le lecteur n'a pas besoin d'en savoir plus sur vous pour apprécier vos textes ?
Alors, humilité, ça serait beaucoup trop ambitieux. Disons qu'en fait, si j'écris des carnets, c'est précisément pour mettre de côté tout ce qui relève finalement de mon existence sociale et que je ne vois pas l'intérêt dans la présentation qui est faite de moi de remettre tout ça en circulation, parce que c'est ce qui finalement, enfin, ça m'est utile dans ma vie, mais certainement pas pour ce que j'ai envie de faire passer dans les carnets que j'écris. Voilà, je dirais que c'est ça. Et ça me fatigue d'avance, l'idée d'avoir tous... parce que c'était un peu long, voilà. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse... Enfin, à partir du moment où il y a un effort de publication, qu'on me reconnaisse pour des qualités que je considère comme... oui, c'est des qualités. C'est l'homme sans qualité. C'est les qualités dont on peut se passer. Voilà, c'est exactement ça.
Alors, c'est la troisième fois que j'ai le plaisir de vous accueillir dans la revue. Chaque fois, c'est des carnets, des extraits de vos carnets qui ont été publiés. Cette fois-ci, ce sont des notes prises lors de vos séjours en Grèce en 2022 et 2023. Quelle est la place de vos carnets dans votre écriture et dans votre vie au quotidien ?
Les carnets, je ne fais à peu près que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas que j'en écris tous les jours, mais le type d'écriture que je pratique, oui, c'est ça, et pas nécessairement pour être, en principe, pas pour être publié. Là, il y a eu un concours de circonstances et votre générosité à mon égard qui fait que quand soudain je me dis, tiens, j'ai quand même envie de publier quelque chose, vous l'acceptez très volontiers. J'écris de façon régulière, mais ce n'est pas quotidien. Il peut y avoir des périodes où je n'écris pas pendant 10 jours, etc. Donc, c'est assez variable, mais c'est un peu, pour moi, une sorte de colonne vertébrale dans mon existence. Ça, c'est très clair, dans mon existence personnelle. Oui. Oui, ça, c'est sûr. Voilà.
Alors, votre rapport à la Grèce me fait penser à un propos qu'avait tenu André Breton à propos d'un petit village du Lot qui s'appelle Saint-Cyr-Kelpopi. Il disait à propos de ce village, « J'ai cessé de me désirer ailleurs. » En Grèce, avez-vous eu ce sentiment? Et peut-être l'avez-vous dans un endroit bien précis.
Oui, c'est l'extrait que je dirais. Oui, alors, ne jamais avoir le désir de se sentir ailleurs, comme fondamentalement mon instinct profond, c'est de ficher le camp, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, oui, c'est très clair que c'est un pays que j'ai découvert il y a très longtemps, mais c'est une rencontre finalement circonstancielle, en tout cas initialement. Et oui, c'est ma cure annuelle. Oui. Ça, je sais que si je vais à tel endroit, ou l'équivalent, parce que je ne reviens pas toujours au même lieu, les mêmes causes produiront les mêmes effets d'une façon qui a sans doute des explications, mais que je ne maîtrise pas parfaitement. Mais c'est un fait, oui, c'est un fait avéré. Et ma référence personnelle pour ce genre de choses, et j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur le stock d'éternité, pour moi c'est très clairement Philippe Jacotet, puisque c'était mon grand écrivain quand j'avais 20 ans, et ça allait quand même rester pendant de longues années avec d'autres, hein. Il n'y a pas d'exclusivité, mais c'est vrai que c'est la recherche d'un lieu et quelque chose qui m'a toujours guidé, mais pas frénétiquement, hein. Je ne cherchais pas un lieu à tout prix, mais c'est le fait que y a des hasards heureux qui font que soudain on se dit voilà, c'est le bon endroit, et ça donne envie d'y revenir, mais pas exclusivement du tout. C'est comme les amitiés, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a de très bons amis à 20 ans qu'on va s'interdire de s'en faire de nouveau à 50. C'est un peu la même chose pour les lieux, je dirais. Ouais.
Ouais. Je vous laisse lire l'extrait.
Lundi 31 juillet, Langada. Hier, au Pirée, dès 6h. Le Blue Star Naxos lève l'ancre à 6h45, destination Amorgos, mon île, pas revue depuis 7 ans. Le bonheur de ces longues traversées reste intact, même si je les préfère de nuit, comme celle mémorable de l'été 2008. Allongé sur un banc à tribord, le nez dans les étoiles, je souhaitais qu'elles ne finissent jamais. À l'approche d'Amorgos, quand l'île se dessine au loin, toujours majestueuse et austère, une émotion intense me saisit. Mon regard en parcourt les lignes, presque amoureusement. À bâbord, je devine la baie d'Egiali, les villages blancs dans la montagne, mon petit royaume. J'en aurai presque les larmes aux yeux, comme de retrouver une personne aimée après une longue absence. La vie a passé, le monde a été secoué par une crise sans précédent, des liens se sont dénoués, mes parents sont morts. Je reviens ici en orphelin, mais mon île m'est restée. Elle est sous mes yeux, presque à portée de main. Je prends conscience que notre relation a mûri avec le temps pour devenir un attachement sans faille. À cette lumière toute païenne, je finirai par croire que l'éternel existe. Amorgos, île de mes amours, île de l'amitié, île aussi de la solitude. J'y suis venu seul plusieurs fois au tournant des années 2010, en crise, incertain surtout, mécontent contre moi-même et l'inertie laborieuse de mon existence. À chaque fois, l'île m'a guéri. Île du temps qui passe, sans que le changement dans l'île même ne se traduise de façon brutale et ne la défigure. Permanence, impermanence. Je mesure ma vie à cette île, elle est mon unité de mesure. Hier, nageai une heure dans la baie, avec les trois villages en vue. Potamos, Lagada, Solaria. Le bonheur intense, absolu, besoin de rien d'autre. J'ai trouvé une chambre ici, à Lagada, une pièce minuscule sur un toit terrasse, avec vue sur la baie et l'îlot de Nicuria. C'est ma cellule de moine. Les heures passent, les couleurs changent. De l'aube au crépuscule, je voudrais rester immobile, absorbé par cette vue. Hier soir, je dîne seul sur la petite terrasse à l'étage du restaurant voisin. Cuisine familiale et simple, préparée dans un espace exigu du rez-de-chaussée. Je n'aime pas dîner seul, mais la gentillesse du garçon me sauve. Mardi 1er août, Solaria. Une bonne heure de marche depuis Langada, avec sur le chemin le rituel de la halte au hameau de Strombos. Ma première visite date d'il y a 15 ans exactement. La chapelle, avec son joli dôme bleu, seule, aux avant-postes du hameau, en surplomb de la baie et de la petite plaine côtière d'Egiali, je l'ai aimée tout de suite. J'ai écrit à F, si j'ai un lieu sur la terre, c'est ici. À chaque séjour dans l'île, j'y reviens. Je voudrais que mes cendres soient dispersées ici. J'ai passé des heures tranquilles, parfaitement heureuses, sans personne, à l'ombre du grand pin, sur le petit muret qui borde l'édifice. J'ai le sentiment qu'en cet endroit précis, rien de mauvais ne pourra jamais m'arriver, que l'équilibre des forces y est tout simplement parfait et me protège. Sur le chemin, je n'ai croisé personne, seuls les fourmis, les cigales, quelques oiseaux de proie, quelques chèvres sauvages, chaleur modérée par le vent, crissement de la caillasse sous les pas. Amorgos, île de l'enfance retrouvée à volonté. À la nuit tombée, les cris des enfants qui jouent et se poursuivent dans les rues étroites, sur les places. Le murmure des conversations dans la cour des maisons. Seules les voix vous atteignent. Les murs protègent. Le son vous vient sans l'image, ou alors il s'agit d'images volées. Le tout propice au mystère, au jeu de l'imagination. Le soir, à la fraîche, les vieilles femmes sont assises sur le seuil et devisent gentiment. Que se racontent-elles ? Je pense à Abuelita, au monde de mon enfance. À mes étés alors, c'était comme ici, mais sans la vue sur la Méditerranée, sans l'élément nouveau qu'ont apporté Amorgos et la Grèce à mon expérience, celui d'un temps légendaire qui échappe au temps et nous fait voir notre vie autrement. Ici, tout ramène à la simplicité heureuse de l'enfance. Abuelita ne possédait rien et on était heureux ensemble. Ici, on est relié à autre chose que l'humain. On sort de l'époque, de sa maladie, de ses obsessions étroites et narcissiques. On est la partie d'un tout qui nous remet gentiment à notre place, malgré l'énormité de notre vanité, Elon Musk, tous les héros dont on est fatigué. Hier soir, nous montons à Potamos, au-dessus des Galli, avec Alex et Yasson, retrouvés ici par hasard. Nous allons dîner à la terrasse du Camara Café et regarder le soleil se coucher sur Naxos. C'est un jour sans vent, le soleil descend dans un ciel impeccablement pur, puis disparaît derrière les hautes montagnes de l'île. Le ciel peu à peu perd ses couleurs et la nuit d'été s'installe, d'un noir soyeux et doux qui n'engendre aucune peur. Ce matin, je me réveille tôt, je vais et viens entre la chambre et la terrasse pour observer les progrès du jour. Le soleil, l'œil du jour, peu à peu réveille le monde. Mon œil à moi parcourt amoureusement ce paysage contemplé des centaines de fois à l'affût de détails nouveaux. L'œil du jour est le maître, il façonne chaque chose, l'éclaire et l'adore selon son bon plaisir.
Bien, si vous voulez. Si vous voulez, on va répondre à vos questions, si vous avez des questions à poser à Anne Coudreuse, à Fabienne Jacob.
Alors, je vais poser une question directoriale à un directeur. C'est pourquoi une revue, au fond, pour rassembler ce qui sont des extraits par rapport à des ensembles constitués. On parle de carnets, on parle de journaux qui sont eux-mêmes qui se tiennent en tant que tels. Qu'est-ce qui fait qu'une revue tient, alors? Qu'est-ce qui lui donne des bords?
L'idée de la revue, c'était de mettre en avant le journal intime. Ça, c'était ma grande idée depuis très longtemps. En fait, depuis que j'ai découvert le journal de Léo Thau, qui m'avait quand même assez fasciné à l'époque, mais j'avais 20 ans. Mais ensuite, quand j'ai voulu créer ma revue, trouver des extraits de journaux intimes tous les semestres, ça m'avait paru un peu compliqué. Et donc, je m'étais dit, je vais étendre ça à l'écrit intime. Et en fait, tout ça parce que il y avait beaucoup de revues qui étaient consacrées aux nouvelles ou à des textes très littéraires, mais aucun était consacré au journal intime. Et je voulais défendre cette forme de littérature, à tel point d'ailleurs que récemment, j'ai été amené à créer le prix du journal intime, parce que le journal intime était le seul genre littéraire à ne pas avoir de prix, puisque la correspondance a un prix, l'autobiographie a un prix, mais pas le journal intime. Donc en fait, ça fait 26 ans que j'essaye de mettre en avant, de promouvoir le journal intime. Alors, je sais que créer une revue à l'heure actuelle, et en plus une revue papier, c'est pas tellement dans l'air du temps. Je pense qu'un jour... Enfin, on ne peut pas dire que la revue à l'heure actuelle a la même ampleur que la revue au début du siècle dernier, où on attendait les revues, où certains auteurs publiaient en avant-première les pages de leurs romans dans les revues. On est bien loin de cela à l'heure actuelle. Et donc, probablement qu'un jour ou l'autre, les revues, en tout cas de littérature, vont disparaître au profit des revues électroniques. En fait, c'est un besoin que j'ai de faire cette promotion et de faire connaître les auteurs, que l'on connaît souvent par leurs romans. Mais le fait de les connaître par les carnets, par le journal intime, permet d'avoir une autre facette d'eux-mêmes.
Bonjour. Je vais m'adresser d'abord au directeur de revue. Vous parlez de journal intime. Alors, je travaille actuellement sur un journal d'une femme, d'ailleurs, qui, en fait, dans son journal, ne met rien d'intime. Donc, vous avez la catégorie du journal personnel, sans rien d'intime. Vous étendez votre revue au journal personnel, sans rien d'intime? Oui. Alors, ce journal, bien qu'il soit personnel et pas intime, cette femme, à un moment, a été tellement heureuse, pendant 3 ans, qu'elle a arrêté son journal. Est-ce que ça vous est arrivé?
C'est vrai que le journal, on l'écrit plutôt quand on n'est pas heureux. En tout cas, c'est mon expérience. Peut-être pas celle d'Hervé. Avoir les beaux jours, les jours heureux à Morgos. Moi, quand je suis heureuse, je le laisse tomber. Hein. Franchement, il ne m'intéresse plus du tout.
Par ailleurs, le titre de la conférence de ce soir, donc,
Écrire pour oublier.
Écrire pour oublier. Alors, merci, vous avez bien défini ce que c'était qu'écrire pour oublier. Parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories d'oubli. Il y a l'oubli où on efface tout, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis, il y a l'oubli où simplement, on est préoccupé par un certain nombre d'idées, de sentiments, de ressentiments, etc. On les écrit pour les classer, et ensuite, ils ne gênent plus. Ils sont classés dans un tiroir, ils ne sont pas, effacés, quoi. Donc, l'oubli dans le titre de cette soirée-là est un oubli c'est un peu ambigu, quoi. C'est pas l'oubli pour effacer, c'est l'oubli pour classer, pour mettre, comme vous disiez, à l'extérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, oui. Mais quelquefois, ça disparaît quand même complètement, parce que si on retombe, on ouvre une page pour chercher une citation d'un auteur qu'on avait noté, on regarde le rêve d'à côté, comment j'ai pu rêver ça, quoi. Et alors, c'est complètement parti. Ou alors, on retrouve une... Parce que mon journal, quand je vais bien, moi, mon journal, en fait, c'est une succession d'anecdotes. Je note des anecdotes, des phrases qui m'enchantent par leur bêtise. Voilà, par exemple, une collègue qui avait dit à la fac de Poitiers très longtemps, c'est une petite noire, mais elle s'accroche. Je trouve ça d'une bêtise, je trouve ça magnifique. Voilà, et ça, je ne l'ai pas oublié, pas parce que je l'ai noté, mais parce que c'est vraiment d'une bêtise. Et puis, d'une professeure d'université, ça prend vraiment tout son sens, quoi. Ça dit dans quel état était déjà l'université. Et donc, j'écris des anecdotes, des choses qui m'enchantent dans la rue, des choses que j'entends, des phrases. Voilà, comme j'ai noté dans les pages journal à ma mère qui me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Ton frère était en... Je ne pouvais pas te répondre. Ton frère était en train de se mettre du vernis sur les ongles. Et puis, tu sais bien comment je suis. Je ne réponds pas. Je fais comme si je n'avais rien. Donc, il en remet une couche. Voilà, ça m'enchante, quoi. La façon dont on utilise la langue française dans toutes ces virtualités poétiques, créatrice, et donc et quelquefois je tombe par hasard sur une de ces anecdotes et il m'arrive que ça m'amuse à nouveau parce que je la découvre à neuf, quoi. Je l'ai complètement oublié. Et une amie qui m'avait raconté aussi qu'elle était au restaurant et que le serveur avait fait un malaise, une sorte d'attaque juste au moment d'apporter l'addition. Il était parti en boucle en disant ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ça, voilà, ça m'enchante. Voilà, je trouve que ça pourrait être dans un film avec des dialogues de Michel Audiard, que même Michel Audiard n'a pas inventé ça. Et c'est ce que dit Grégoire Bouillet aussi. Il dit que la réalité a beaucoup plus d'imagination que la fiction, que la vie a plus d'imagination, a plus de créativité que tout ce qu'on pourra jamais inventer. Et c'est pour ça que le recueil d'anecdotes, le petit fait vrai, moi, quand je suis heureuse, j'arrête pas d'écrire, non. Je crois que j'écris ce qui est le plus vivant en moi. Donc cette capacité d'absorber l'extérieur, d'y être sensible, attentive, au lieu de m'enfermer dans mes petits trucs pas intéressants et qui m'intéressent trop souvent.
Moi, j'ai trois carnets. J'ai un journal intime où je déverse les mauvaises eaux, les eaux troubles, et je balance. J'ai un carnet, sur la couverture, c'est écrit « Merveilleux ». Donc, c'est le carnet des rêves. Donc, je note les rêves. Et j'ai un troisième carnet. Alors là, c'est pour... C'est un carnet du beau, tout ce qui m'est arrivé de beau, mais c'est plutôt les films, les expos, les phrases que j'ai entendues, les livres, les citations. Et là, il y a vraiment du beau. Là, c'est vraiment, on est dans le grand beau. Mais dans mon carnet, c'est pas du tout le grand beau, hein. C'est très, très nuageux, ciel de traîne en permanence.
Oui, une question alors d'une autre catégorie encore de journal. C'est un très beau journal d'ailleurs, celui de Jean-Michel Espitalier, La première année. Bon. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu par hasard, c'est donc Jean-Michel Espitalier, donc, qui est un de nos poètes les plus connus actuellement, qui a eu un grand malheur. Il a perdu sa femme assez jeune, et bien sûr il était dans un état assez désespéré. Il a une fille, Et il a donc écrit un journal en s'adressant à sa femme. Donc, ce n'est pas un journal pour lui, c'est un journal dans lequel il s'adresse à sa femme. Voilà. Et ben ce sont ses réactions, c'est tout ce qu'il a fait après sa mort, pendant un an, pendant cette première année de veuvage, quoi, qui est un très, très beau carnet. Je ne sais pas ce qu'en pense le directeur de revue sur les journaux intimes.
Je parle de journal intime parce que ça fait partie du langage courant, mais en fait, vous avez raison, c'est le journal personnel. Hein. Il y a des journaux intimes, il y a des journaux extimes, il y a des, dans certains journaux, il y a des gens qui ne parlent jamais d'eux-mêmes. Ils parlent de l'actualité, ils parlent de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont vu. D'autres, par contre, ne parlent que d'eux-mêmes. Chacun a sa manière de remplir son journal intime. Et, mais je suis d'accord avec vous, il faudrait plutôt parler de journal personnel.
Vous connaissez la première année?
Oui. Ouais. Absolument magnifique, oui. Mais c'est difficile de parler de journal intime ou même de journal personnel. Il y a tellement de diversité dans le journal qu'il faudrait commencer à classifier les journaux en disant c'est un journal. Voilà, parce qu'il y a les journaux avec des dates, il y a les journaux sans date, il y a les carnets d'écrivains. Donc. Il y a une telle diversité que trouver un mot générique, c'est pas aisé, en fait.
Oui, c'était pour apporter un petit bémol à ce que vous venez de dire par rapport très rares revues consacrées au journal intime. Je voulais rappeler l'existence de la Faute à Rousseau, qui est le journal de l'APA, et comme nul ne l'ignore, l'APA est l'association pour l'autobiographie, et nous consacrons quand même beaucoup de pages au journal intime, mais vous le savez bien, surtout en tant que voisin au Salon de la Revue depuis des années. Mais je voulais juste apporter cette précision que vous connaissez évidemment, parce que nous essayons d'avoir au moins, je pense, un tiers des articles consacré au journal intime en tant que tel, puisque au départ c'était vraiment ça qui intéressait le fondateur Philippe Lejeune.
Alors effectivement, il y a la Faute à Rousseau que je recommande à tout le monde. La différence entre nos deux revues, c'est que dans les moments littéraires, il n'y a pas d'analyse, c'est simplement des extraits des journaux qui sont publiés. Alors que dans La Faute à Rousseau, il n'y a pas d'extrait de journaux intimes publiés, ce sont des notes de lecture. Voilà. Mais les deux sont complémentaires et tout à fait intéressants.
Merci beaucoup. Donc moi, j'ai une question pour vous trois. Donc, c'est plutôt une question musicale. Je m'intéressais à l'idée de savoir s'il y avait, par exemple, une musique, un album, un ou une artiste qui vous inspirait quand vous écriviez. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu le roman d'Anne Coudreuse comme avec une femme, je sais que j'avais beaucoup apprécié, mais paradoxalement, je n'ai aucun souvenir d'une phrase ou quoi que ce soit qui m'ait marqué. Mais j'ai très clairement en tête des musiques que j'écoutais à ce moment-là pour lesquelles je me disais qu'elles correspondraient parfaitement, je veux dire, à ce que je lisais. Donc, à Anne Coudreuse comme à son écriture. Donc, je voulais savoir, donc, que ce soit pour vous, Anne, ou aussi pour vous, Fabienne Jacob et Hervé Ferrache, si vous aviez, je ne sais pas, une inspiration musicale ou plusieurs même qui rythmaient vos écritures, vos relectures.
Moi, je n'écris pas en musique. Ou alors, quand j'écris mon carnet, je note la chanson que j'écoute, en fait. Elle entre dans le carnet tout de suite. Mais autrement, je n'écris pas en musique. Mais pour moi, la grande référence, c'est Barbara, quoi. C'est vraiment... c'est maladif, quoi. Une fois, j'étais chez Gibert. Je regardais le rayon Barbara, là. Et puis, il y avait... le disque d'Alexandre Tarot, je crois, qui avait fait des reprises et tout. Et puis, il y avait une jeune femme qui regardait aussi Edith Barbara. Alors, elle me dit, ah bon, vous aussi. Je dis, bah oui, mais moi, je me soigne. Et puis voilà, puis je fais... Parce que, mais bon, c'est vraiment ça. C'est vraiment la grande... De toute façon, je crois que la envie d'écrire, elle vient d'avoir écouté des chansons de Barbara. Avant de savoir écrire,
avant de savoir lire, même j'entends des chansons de Barbara et je me raconte les histoires des chansons de Barbara pour m'endormir, quoi, et j'ai envie de raconter les histoires des chansons de Barbara que je comprends pas du tout de toute façon, parce que Drew à 6-7 ans, faut quand même y aller, quoi. Mais c'est ça, ça vient de là, ça vient des chansons, de ce que ça, que quelqu'un raconte quelque chose, que ça tient dans une forme très brève, que ça émeut tout le monde, qu'on est applaudi pour ça, c'est quand même pas mal. Mais ça, l'envie de raconter des histoires, l'envie d'écrire, elle vient avant de savoir écrire, par Barbara, c'est sûr. Ça, c'est, et donc, par la névrose de ma mère et tout ça, ça tout va ensemble, bien sûr. Il y a un petit paquet à prendre en même temps, quoi.
Ben moi, je ne suis pas inspirée par la musique. J'en écoute, mais comme d'habitude. Voilà. Je suis assez amatrice de variété, je suis assez midinette. J'aime la variétoche, mais je vais manquer de modestie un peu. C'est moi la musicienne quand j'écris, c'est moi. Je dois faire de la musique, je suis très sensible au rythme. Je suis très sensible au rythme des phrases, je le travaille énormément. Je dis mes phrases à voix haute et elles me plaisent ou elles ne me plaisent pas. Donc, je travaille le rythme. Je n'aime pas tous les mots. J'aime certains mots. J'aime certaines longueurs de mots. J'aime certaines consonnes, certains sons, d'autres pas du tout. Par exemple, j'adore le mot canoë. Par exemple, le mot canoë, c'est un de mes préférés. J'adore, je le trouve parfait. Je trouve que c'est un mot parfait. Donc, la musique, non, c'est moi qui dois la... Mais maintenant, on est très curieux de ce que vous écoutiez. Vous ne nous avez pas dit ce que vous écoutiez à la lecture de Anne Coudreuse.
Donc, moi, j'ai écouté beaucoup. Moi, je suis très fan déjà de tout ce qui est rock et de musique bretonne. Et il y a un groupe qui synthétise très bien les deux, qui est un groupe qui s'appelle Matmata. Et je pensais à une chanson qui s'appelle « Dernière journée en mer ». Et pourquoi cette chanson en particulier? C'est parce que dans « Comme avec une femme », il y a toute une poétique, je trouve, de la nage. Et aussi du fait de se perdre un petit peu dans les eaux. Et en fait, cette chanson « Dernière journée en mer », elle parle en fait d'un jeune homme en fait, qui est pêcheur ou marin, on ne sait pas exactement, et qui est appelé en fait, pour aller à la guerre et qui doit laisser derrière lui la mer. Et donc, qui lui est extrêmement cher. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser en fait, à Anne Coudreuse dans la manière dont elle le mettait en avant au niveau de la voix narrative, parce que
on m'entend pas. Parce qu'on a l'impression vraiment qu'on a aussi cet attachement à la mer, mais aussi cette idée qu'on fait corps avec, il y a une sorte, je sais pas, je trouve qu'il y a comme une sorte de lumière qui se dégage un petit peu des corps décrits dans l'eau. Et puis, moi, j'avais trouvé ça très chouette. Et je trouve qu'à la fois, cette lumière, il y a une poésie, il y a une douceur, mais en même temps, une telle vitalité quand on voit aussi la dureté du roman. Et bon, bref, j'ai vachement aimé, comme vous le pouvez l'entendre.
Matmata. Nous allons tous écouter Matmata.
J'espère bien faire ma propagande musicale.
La playlist de Valentin.
Et vous, Hervé Ferrage?
Moi, j'écoute tout le temps de la musique, mais alors certainement pas quand j'écris, quel que soit le type de texte que j'écris. Ça peut, si c'est des textes critiques ou autres, peu importe. Non, mais j'écoute tout le temps de la musique, oui, ça c'est sûr. Enfin, dès que... oui. Mais non. Et enfin, ça dépend des saisons. Les musiques sont très marquées par les saisons. Bah, en Grèce, j'écoute beaucoup de guitare classique, par exemple, ou de la musique grecque. Ça peut être divers types de musique grecque, mais pas au moment d'écrire. Voilà, je suis assez d'accord avec Fabienne. C'est-à-dire qu'il y a une musique qu'on essaie de se fabriquer soi-même. Donc, si on a une autre musique dans l'oreille, ça crée des perturbations et c'est pas possible. Mais...
Ah, alors une question pour Anne Coudreuse. À un moment, vous posez la question « Est-ce que l'écriture nous sauve ?» Vous y avez partiellement répondu. Et à un autre moment, vous dites que l'écriture permet de vous réconcilier avec vous-même. Alors j'aurais aimé savoir, ce sont des tensions, c'est une part de vous que vous reniez, que vous n'aimez pas. Sur quoi ça se focalise finalement, cette réconciliation, cette tension?
C'est justement de... se réconcilier avec la personne, comment dire, très malade qu'on a pu être, ou très diminuée, très vulnérable, et se dire que cette vulnérabilité, elle fait partie de moi et que je dois lui faire de la place, sinon je vais en crever, quoi. Donc, il faut écrire, dire, écrire cette, cette fragilité, ça permet d'en tirer une forme, oui, une certaine force quand même, ou un certain apaisement, oui. Mais je me souviens d'avoir écrit, et ça je ne l'ai pas dit dans l'entretien, mais j'avais écrit « Ce livre nous réconcilie », et puis après je m'étais rendu compte que dans « Nous réconcilier », on peut lire aussi « Le con s'y relie ». Et donc, je me demandais si j'étais pas complètement à côté de la plaque. Quoi. Il y a ça aussi, est-ce que je suis pas en train de me raconter une histoire que ça se finit bien, alors que ça se finit pas si bien, finalement, quoi. Je sais pas.
Oui, donc c'est une question qui ne s'adresse pas seulement à Anne Coudreuse, mais peut-être au moment littéraire, à son éditrice. Est-ce qu'on va avoir ce recueil de journal extime, fragmentaire, recueil de mots saisis sur le vif, est-ce qu'il va être publié? Est-ce que tu pourras te relire pour retrouver ces fragments? Voilà.
Non, je ne pense pas que je ferai ça. Je pense que ça sera reversé si ça me revient dans des textes narratifs, quoi, dans des récits ou dans des romans, ou dans des dialogues, par exemple, d'inventer des dialogues quand on a tout ce stock d'anecdotes en tête ou dans ces cahiers, ça peut être utile, quoi. Mais non, je ne crois pas, je ne pense pas faire une anthologie des bons mots de tous les idiots de la Terre, parce que c'est infini, quoi, voilà. Enfin, rien que mes collègues, ça pourrait suffire à faire un volume, mais voilà. Non, ça ne viendra pas.
Eh bien, je crois que nous approchons de la fin de la soirée. J'aurais cependant une dernière question. J'espère pas trop ouverte, mais quand même, pour faire aussi la promotion du Salon de la Revue. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Gilbert Moreau, sur le fait que c'est une revue papier, parce que bon, ben voilà, le papier va disparaître. Le Salon de la Revue vous présente essentiellement des revues de papier. Quelques plateformes ou éditeurs électroniques sont présents, mais il y a beaucoup de papier. Et c'est vrai que depuis l'avènement d'Internet, on s'est dit, bon, ben on va les accompagner dans le lent déclin. Voilà, vers la disparition, remplacée par des écrans. Et pourtant, on voit la jeunesse qui vient. Et pas seulement la jeunesse, mais un renouveau en fait, des titres, des créations de revues, de littérature. Et pas seulement, mais la littérature faite par des jeunes gens, immédiatement sur du papier. Il y a de la création de textes, de la mise en ligne, évidemment, sur Internet, etc. Mais on ne voit plus de création de formes, de création de supports particuliers, et partant de formes de littérature, où on s'y connaît moins peut-être en entrevue, puisqu'on a le nez dans le papier. Mais c'est un constat que la jeunesse en veut encore. Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux textes qui vous arrivent, et en tout cas par rapport à vos pratiques? Alors là, il y a peut-être un fait de génération, et je m'inclus sur le fait d'écrire son journal dans sa chambre, sous la couette. Maintenant, on ne peut pas faire brûler une bougie. Donc ce serait plutôt des écrans, plutôt des carnets en papier, plutôt... Voilà, je me posais la question de la matérialité des revues, mais aussi des écrits intimes.
Quand je disais que peut-être la revue papier allait disparaître, ce n'est pas dû au fait que les éditeurs n'ont plus envie d'en faire, que les lecteurs n'ont plus envie de lire des revues papier. Le problème, c'est le coût. Le coût du papier. Et depuis la crise Covid, le coût du papier s'est envolé, le coût de l'encre aussi. Et donc, si on rajoute à cela le coût des tarifs postaux, qui augmentent quand même de 10% par an, à un certain moment, malgré la bonne volonté des uns et des autres, les éditeurs mettront la clé sous la porte pour... parce que leur revue sera plus rentable du tout et les frais seront insupportables. Et d'ailleurs, même les grandes maisons d'édition commencent à réduire les frais concernant leur revue. La NRF est devenue, je crois, semestrielle ou annuelle. Donc en fait, c'est pas un manque de désir de faire des revues papier. C'est c'est l'environnement qui n'est plus favorable à la création de revues littéraires.
Et après, sur la matérialité, comment vous écrivez vos journaux les uns et les autres? Sur quel type de support?
Moi, j'écris sur des carnets de la marque Tassotti, qu'on m'envoie de Venise. Et maintenant, ce sont des collecteurs, parce que la papeterie Tassotti ne les fabrique plus aussi gros. Elle fabrique que des carnets tout petits. Donc, j'ai encore un stock de papier, de carnets Tassotti. Et j'en offre aux écrivains que j'aime bien. Donc, mon stock diminue, mais comme j'écris pas beaucoup, pas énormément dans mon carnet, mais je tiens vraiment à toute la panoplie de l'écrivain, le carnet, le stylo, l'encre, tout. Après, mettre au propre sur ordinateur, c'est bien aussi, ça permet d'y voir clair et tout. Mais d'abord, ce geste d'écrire, et dès qu'on est dans une classe, on voit ceux, les étudiants, les étudiantes qui aiment ce geste d'écrire. On les repère tout de suite. Et c'est un enchantement parce que tous les ans, il y en a. Il y en a beaucoup, pas beaucoup, mais il y en a tous les ans. Et ça c'est merveilleux.
Toi, moi, tu m'as offert un très beau carnet italien. Il est tellement beau que je n'ose pas l'entamer parce que rien de ce qui m'arrive en ce moment n'est assez beau pour figurer dans ce ô combien beau carnet. J'écris sur toutes sortes de tout ce que j'ai un peu sous la main. Et il ne faut pas que ce soit des carnets trop, trop beaux. Sinon, je n'ose pas. Ou alors, ce sera un carnet de phrases et de choses vues, entendues ou vues au cinéma. Sinon, je n'imagine pas un instant écrire l'intime sur l'ordinateur. Mais alors, pas un instant. C'est vraiment la proximité, la chaleur, le crayon. Non, ça ne va pas du tout ensemble. Du tout, du tout. Le carnet intime et le... Et l'ordinateur, alors là, c'est aux antipodes, même pour moi. C'est la matérialité froide et la sensation la plus intime et la plus brûlante et la plus douloureuse. Donc non, c'est deux matériaux qui ne vont pas du tout ensemble, à mon avis.
Et vous ? Non, moi, c'est papier. Alors,
au tout début, c'était il y a quand même très longtemps, c'était n'importe quel type de carnet. Et puis ensuite, quand je vivais aux États-Unis, j'avais découvert les Moleskine qui, à l'époque, étaient rares. Et donc, j'étais très content parce que c'était parfait pour moi. Donc, j'ai toujours fait. Mais comme maintenant, c'est partout, ça commence. ça m'agace, mais je n'ai pas trouvé à les remplacer. Donc, quelquefois, je remplace quand je trouve de jolis carnets qui me plaisent. Enfin, il ne faut pas qu'ils soient trop beaux non plus. Si c'est trop beau, ça ne me va pas. Il faut que ça soit pratique, mais que ça ait un certain charme. Quoi. Comme, voilà. Mais, alors, l'autre jour, sur mon téléphone, j'ai vu une appli apparaître, journal. Pourquoi n'écrivez-vous pas chaque jour, blablabla? Donc il y a une appli, on peut maintenant écrire son journal. Mais non, ça ne m'irait pas du tout.
Juste une dernière question. Vous avez parlé du plaisir d'écrire que vous repériez chez vos étudiants. Et vous calligraphiez ou vous biffez, vous tachez, vous rayez? C'est quelle présentation?
J'essaie de faire en sorte que ça soit lisible, mais je ne biffe pas particulièrement, je ne rature pas. Littérature, je n'ai pas envie de lire mes ratures. Et puis, non, mais j'ai envie que ça fasse un bel objet quand même. J'ai envie que ça soit soigné. Voilà, j'ai envie que ça soit beau.
Eh bien, écoutez, je vais finir sur une note optimiste, puisque Gallimard a recréé deux revues à côté de la NRF qui semble sombrer, elle. Mais elles ne sont pas présentes au salon de la revue, donc ce n'est pas pour elles que vous pourrez venir, mais pour les moments littéraires, assurément, la faute à Rousseau et quelques dizaines d'autres dans bien des champs particuliers. Ce sera donc dans 10 jours au Blanc Manteau, et vous serez tous accueillis avec grand plaisir. Merci pour cette belle soirée qui sera donc en ligne d'ici quelques semaines, disons-le. Merci à tous.